Le second spectacle, I Puritani de Bellini, était donc la version concert sans mise en scène de l'opéra. Le pitch est convaincant, quoique déjà vu, surtout à l'opéra. Deux jeunes tourtereaux s'aiment d'amour tendre, mais sont condamnés par leur famille à être séparés par l'histoire avec sa grande hache. L'intrigue se passe lors de la Révolution anglaise menée par Cromwell, dont s'ensuivra la décapitation du roi Charles Ier Stuart. Arturo, prénom aux consonances clairement anglophones, est de la famille des Stuart et Elvira, sa douce promise, dans le camp des puritains, les partisans de Cromwell. Contraint à la séparation, Arturo, pour protéger la reine Henriette, la fait passer pour sa fiancée, ce qui fait sombrer la pauvre fille dans la dépression la plus noire, avant que tout revienne dans l'ordre, les troubles politiques passés. Chez Bellini, les puritains s'en tirent avec les honneurs et le mariage. Arturo finira, malgré les désordres de l'histoire, à mener sa belle à l'hôtel. Mais je suis curieuse de savoir comment une histoire si romanesque pourrait survivre dans la version strictement concertante. Alors, Jocelyn, la musique se suffisait-elle à elle-même ?
Non seulement la musique se suffisait à elle-même, mais en plus l'opéra qui nous a été proposé n'avait rien à envier finalement une version scénique. Et je pense que c'est ce qu'on peut retenir surtout de la production que vient de nous proposer l'Opéra de Lyon en partenariat avec le Théâtre des Champs-Élysées, puisque l'œuvre a aussi été donnée à Paris la même semaine. Une difficulté pour un opéra donné en version concert, finalement, c'est que cet exercice se transforme en exercice de style, à savoir qu'on met en avant finalement que l'orchestre, éventuellement la distribution, mais dans la technique pour la technique, puisque effectivement, sans les artifices de la mise en scène, il semble plus difficile de faire vivre l'œuvre. Et je pense que Thomas s'accordera avec moi pour dire que, en l'occurrence, nous n'avons pas assisté à un exercice de style, mais bien à un opéra à part entière, où à la fois la musique, le chant et la théâtralité étaient convoqués pour finalement avoir un opéra qui valait tout à fait une version scénique.
Oui, c'est le cas.
Alors, quelques mots sur la distribution qui nous a été proposée, à savoir que les rôles principaux d'Arturo et d'Elvira étaient brillamment interprétés par leurs interprètes respectifs.
Dmitri Korchak et Olga Peretiatko. Je fais la speakerine aujourd'hui, vous l'avez compris.
Le premier donc pour Arturo, bien sûr, le second pour Elvira, naturellement. Oui.
Et des interprètes très jeunes, puisque Dmitri Korchak a 33 ans et Olga Peretiatko, dont évidemment nous n'avons pas l'année de naissance, diva oblige, est aussi très jeune, on lui donne pas plus de 30 ans. Hein.
Oui, et puis surtout ce qu'on peut remarquer, c'est des personnages jeunes, mais finalement on sent hein, dans ces chanteurs une future carrière qui, à mon avis, n'aura rien à envier aux actuels grands de la scène lyrique. Concernant le personnage d'Arturo, la prestation était d'autant plus surprenante qu'il nous avait été annoncé comme souffrant avant la représentation, alors que finalement ses aigus n'avaient absolument rien à envier aux anciens interprètes du rôle. Et ce qu'on pouvait surtout apprécier chez lui, c'était finalement la jeunesse, la vaillance qui ressortait de son jeu.
Et sa fougue.
Quant à Elvira, elle porte littéralement l'œuvre du début à la fin, puisque c'est un personnage qui est bien sûr présent dans tous les actes. C'est un personnage qui est présent dans tous les actes et qui passe aussi par tout un tas finalement d'émotions, que ça soit l'exaltation hein, de l'amour ou bien les scènes de la folie, qui sont assez courantes hein, dans le Belcanto. Je crois que là, on peut vraiment s'accorder pour dire que, d'une part, sa maîtrise technique était absolument parfaite, son médium assuré. Que d'un point de vue théâtral, le jeu était présent et surtout la complicité entre les chanteurs et avec l'orchestre était présent. Et je pense que c'est là un des travers du bel canto, enfin un risque qui aurait pu avoir qui a été évité, à savoir que le bel canto hein, donne quand même la part belle finalement aux vocalises et au timbre et à la voix, et finalement c'est tellement un exercice de style. Nous n'avons pas assisté finalement pour le coup à une concurrence de technique entre l'orchestre et la distribution, mais au contraire un appareillement harmonieux, voire complice même, lorsqu'on voyait donc le chef d'orchestre se littéralement serrer dans les bras avec les interprètes à moult reprises tout au long de leur présentation. Une véritable harmonie et finalement un jeu à égalité entre tous les interprètes, tous les musiciens et le chœur bien sûr qui était très présent pour donner finalement une sorte de joyeuseté, de légèreté et surtout de bonne humeur contagieuse à la salle.
Comme l'exercice du bel canto était si bien maîtrisé que la musique n'en perdait pas de sens et était davantage renforcée en théâtralité, puisque le bel canto c'est l'opposition à la musique symphonique qui va peu à peu envahir l'opéra par la suite dans le 19e siècle.
Bah, surtout, la théâtralité était magistralement portée par les interprètes. À savoir que visuellement, lorsque ça soit d'ailleurs aussi bien dans le chœur hein, que sur les rôles principaux, lorsque donc les pièces chantées étaient en cours, il y avait une vraie gestuelle à la fois sur le visage et sur les mains, sur les acteurs, comme si finalement, enfin, il ne manquait finalement que le décor et les costumes, mais finalement ça manquait pas et on avait, ils portaient vraiment les rôles de façon magistrale et théâtrale. On les sentait même finalement incarnés par les personnages, aussi bien psychologiquement que vocalement, donc. Et ça faisait vraiment une production qui, même pour moi, était beaucoup plus réussie que Macbeth, pour le coup.
Je suis contente de savoir que tu t'es amusé sans moi, je sais. Et toi, Thomas, j'aimerais savoir si, après la vie aussi expert de Jocelyn, tu as des choses à dire.
Un avis forcément moins expert que Jocelyn, évidemment, mais je voudrais revenir sur les risques qu'il y avait à présenter du bel canto à Lyon, et tu en as signalé un, Jocelyn. Il y en avait deux autres qui tenaient. Alors toi, tu as fait ce lien entre les chanteurs et puis l'orchestre. Moi, je décompose un peu. Il y avait un risque dans l'interprétation des chanteurs et aussi dans la direction de l'orchestre. Et c'est des risques qui sont pas du tout secondaires. Le premier, c'était donc qu'il fallait une interprétation des chanteurs vraiment sensible et dans la nuance. Parce qu'on ne peut plus, c'est une évidence, chanter du bel canto comme à l'époque. Déjà, techniquement, ce n'est plus possible. Déjà en 1957, dans ses mémoires, Beniano Gigli, célèbre ténor italien du début du XXe siècle, disait « Bellini et Donizetti avaient écrit des opéras, ces opéras étaient chantés, les chanteurs de cette époque étaient capables de les chanter. » Et il cite tout un tas d'interprètes merveilleux et un petit peu oubliés de l'époque qui étaient capables de chanter ces opéras. Et il enchaîne en disant en 57, aujourd'hui, la plupart des chanteurs ne peuvent pas les chanter, c'est le déclin. En effet, Bellini a écrit cet opéra, notamment pour les rôles de ténor, avec une densité qui va du baryton au ténor, ce qu'aucun chanteur aujourd'hui n'est capable de faire. On pense notamment à l'acte 3, au célèbre air Credeati Misera, où Arturo doit pousser la note du contrefa, qui est la note la plus aiguë écrite pour un ténor dans l'histoire de l'opéra, et qui aujourd'hui est quasiment impossible à réaliser. Et effectivement, Dimitri Korchak l'a fait, même souffrant, sur scène. Donc c'était une prouesse technique à faire du bel canto et du Bellini qui nous était proposé. C'est aussi une prouesse artistique, parce que à l'époque, il y avait une manière vériste, on imaginait très mollo quand on pense au bel canto, ces airs roucoulants, ces airs très, très passés. Ça, c'était l'écueil, nous faire, comme tu disais, Jocelyn, un exercice de style où on montre merveilleusement sa voix. Non, c'est pas ça qu'on attend, surtout depuis la Callas qui est passée par là, qui a fait du bel canto à la fin de sa carrière et notamment qui a repris Norma de Bellini et qui a posé sa voix d'une façon si poignante, si émouvante qu'on ne peut plus faire du bel canto depuis Maria Callas sans interpréter. Et de l'interprétation, il y en a eu à l'Opéra de Lyon. Il y avait, tous les registres sont passés parce que la palette que fournit Bellini et le livret est vraiment très dense et on passe effectivement de tous les registres de chant mais aussi de tous les registres d'émotion et on peut le dire, il y avait vraiment de la magie sur scène et parfois même un sentiment d'irréalité qui n'était pas que lié à ses prouesses vocales donc mais aussi à l'interprétation extrêmement sensible qui nous ont été données. Donc ça, c'était le premier écueil, une interprétation qui se devait d'être à la hauteur, elle l'était tant techniquement que artistiquement. Donc on peut, donc comme tu l'as fait, Jocelyn, rendre hommage à la fois aux deux rôles-titres, on va dire, mais également, moi j'ai spécial dédicace, on va dire, à Henriette de France, qui a un tout petit rôle, mais qui avait une voix magnifique et une interprétation très très sensible, c'est Daniela Pini, et un rôle un peu moins secondaire, celui de Ricardo, le rival d'Arturo, qui était joué par Pietro Spagnoli, et avec beaucoup de noblesse dans la voix. Alors, autre écueil qu'il fallait éviter, c'était celui d'une direction d'orchestre trop fade. En effet, dans l'interview que j'avais pu réaliser avec Stefano Rabaglia, qui est donc chef d'orchestre lui-même et qui assistait le chef d'orchestre Evelino Pido, qui a fait un travail magnifique sur cet opéra en version concert, il nous disait, Stefano Rabaglia, que la plupart des chefs d'orchestre n'aimaient pas trop diriger du bel canto parce qu'ils avaient l'impression que c'était juste accompagner les chanteurs. Il disait, oui, qu'il n'y avait pas une bonne harmonie, Jocelyn, entre les deux. Là, il y avait cette harmonie, et il y a eu un travail d'interprétation de tous les silences qu'il peut y avoir, de toutes les ellipses qu'il y a entre les notes de Bellini, qui rendaient l'accompagnement, qui rendaient à l'accompagnement ces lettres de noblesse. Et véritablement, si l'accompagnement est un art, Evelino Pido en a révélé toute la maestria, faisant de l'orchestre de Lyon un personnage à part entière de cette opéra.
Et d'ailleurs, on voyait très bien le chef d'orchestre tout au long de la présentation, parce que l'orchestre est sur scène et en pleine lumière. On voyait très bien le chef d'orchestre vraiment donner les indications, les tempos, et surtout indiquer au chanteur notamment, ou au musicien, quand il fallait jouer la note, quand il fallait chanter. Donc insister sur les silences, comme tu le signalais. Donc ça donnait vraiment une très belle harmonie, à la fois dans la façon de présenter la pièce, de la jouer et de l'interpréter, une très belle harmonie d'ensemble. Je pense qu'on peut aussi juste souligner le choix de la programmation. Puisque dans le, en tout cas dans le répertoire du bel canto, cette œuvre de Bellini n'est absolument pas la plus connue aujourd'hui, en tout cas. On connaît surtout la Norma ou bien sûr la Somnambule. C'est une œuvre qui est tombée dans l'oubli. Donc la donner en version concert était d'autant plus risquée que pour un public qui ne connaît pas grand-chose en opéra, il y avait peut-être un risque de tomber dans l'ennui. On ne peut pas connaître une œuvre qui apparaît comme simpliste aussi, hein, de prime abord, même si la trame politique est aussi présente. Hein. C'est l'époque de la révolution de Cromwell, et donc dans ce choix d'une œuvre un peu aussi politique par moment, on peut voir l'émergence d'une conscience nationale très, très propre à l'opéra italien, ou un futur opéra italien qui se développera ensuite. Donc c'est une œuvre qui était tombée dans l'oubli, dont finalement le choix était pas forcément évident pour un tel répertoire. Et je crois que l'accueil qu'a fait le public à l'œuvre à la fin de la présentation, je sais pas combien de minutes, longues minutes d'ovation.
Ah, c'était énorme, mais c'était mérité.
Mais c'était mérité, montre qu'on peut faire vraiment le choix d'une programmation qui sorte des classiques, des œuvres qu'on a revues 10, 15, 20, 30 fois, tout en permettant des productions de qualité comme celle-là. Et je pense qu'on en redemande pour les saisons à venir, en tout cas, très largement. En tout cas, ça fait honneur à l'Opéra de Lyon de proposer un tel répertoire.
Bref, on peut dire vive le bel canto, et vive le bel canto interprété aussi intelligemment et aussi sensiblement.
Je vois que l'Opéra de Lyon n'a pas démérité. Je fais la référence à sa très bonne réputation, et je dirais même à vous entendre qu'on fait mieux que Maria Callas ici à Lyon. Mieux, presque aussi bien peut-être.